Particulièrement heureux de vous voir aussi nombreux ce soir. C'est un beau cadeau que vous me faites et j'espère que je vais pouvoir vous transmettre aussi des cadeaux pour que vous ne regrettiez pas ce déplacement. C'est d'autant plus émouvant que nous avons un besoin vital de ce type de travail et de ce type de rencontre. Vous et moi, non pas seulement en tant qu'être personnel, bien sûr, mais surtout en tant qu'âme et en tant que frères et sœurs. Les événements que nous vivons actuellement ou que vous présentez pour certains et certaines, plus certaines que certains, sûrement, et qui sont en liaison notamment avec les éruptions solaires que subit la planète depuis quelques semaines, qui vont se produire encore pendant quelques semaines, mobilisent des énergies considérables de tous ordres. Et nous devons, croyez-moi, plus que jamais nous préparer à des choses pas forcément faciles. Donc ce type de rencontre, ce type de travail, qui passe par les mots aussi, comme ce soir, fait aussi partie de la préparation, de l'élagage d'un certain nombre de concepts qui sont à présent caduques et d'une espèce de restructuration collective dans un égrégore de lumière. Et ça, c'est fondamental. Je crois que vraiment je peux dire en toute simplicité que je suis là malgré moi ce soir et que le ciel me demande de faire ce type de travail. Et que ces conférences sont beaucoup plus proches d'une mission que d'une profession. Nous allons donc parler, réfléchir, sur le thème du karma, de la réincarnation, et évoquer bien sûr les théories, chercher des preuves, essayer d'y voir clair. Le mot karma, karman, tel qu'on devrait l'écrire, en sanskrit, signifie littéralement action. Il a la racine sanskrite, kar, qui est le verbe faire, et karma, qui est l'action, avec cette notion dynamique, toujours, d'enchaînement des causes et des conséquences. Ça, c'est connu, c'est simple, connu par pratiquement toutes les traditions, et même dans notre pensée occidentale, la notion d'enchaînement des causes et des effets, des conséquences, est tout à fait admise puisqu'elle est logique sur le plan de la physique, sur le plan de la biologie, sur le plan de la psychologie, sur le plan de l'énergétique. Aucune action n'est sans conséquence, bien sûr, et elle n'est elle-même sans cause, ce n'est impossible. Seulement les Védas, les livres sanscrits, les livres sacrés de l'Inde, ajoute à cette notion d'enchaînement des causes et conséquences une notion particulièrement éthique, c'est-à-dire une notion faisant intervenir la justice et non plus le hasard, la justice divine, la justice karmique, qui prétend que les événements du présent sont la juste conséquence des événements du passé. Et que ces événements du présent sont porteurs, bien sûr, sont les graines des événements futurs. Le Bouddha disait de son côté que les hommes sont les héritiers de leurs actes, dans le même sens, dans le même esprit. Dans la philosophie indienne, dans la philosophie védique, on ne peut pas dissocier la notion de karma et la notion de samsara, ou de samskara. La racine sam veut dire couler avec. Il s'agit d'évoquer là les cycles des naissances et des morts successives qui, dans cette philosophie indienne, est symbolisée par une roue avec un centre, un axe, un moyeu central et puis 6, 8 ou 12 rayons selon les écoles. On parle alors du flux tumultueux dans lequel les ignorants s'ébattent avec satisfaction. Le monde du tumulte, de la douleur et de l'angoisse. Le monde des samskars, le monde de ce cycle, donc, de la roue de la vie, la roue des existences, à laquelle personne ne peut échapper, jusqu'à l'objectif final qui est le recentrage dans ce symbole, ce cercle, au centre de ce cercle. Cette délivrance finale par ce que l'Inde appelle nirvana, qui est, si on peut le traduire, l'extinction la plus parfaite de notre personnalité, c'est-à-dire de notre moi-je, de notre structure égotique, dans le soi, c'est-à-dire la réalité divine qui nous est supérieure. On pourrait dire aussi l'extinction dans le réel, avec un grand R, comparé à l'illusion de nos expériences terrestres. On pourrait évoquer aussi la claire lumière tibétaine, le samadhi des extrêmes orientaux. Et toutes les traditions parlent de cette même délivrance proche de notre paradis occidental. Alors précisons tout de suite que la notion de karma n'est en aucun cas à confondre avec la notion de bien et de mal. Lorsque je disais éthique tout à l'heure, c'est vraiment dans le sens d'une justice, c'est-à-dire d'une loi, d'un Tao, d'une loi qui s'impose, qui est auto-active, parce qu'elle est lancée depuis le départ de la création, et qu'elle est bien, bien loin de tous les jugements émotionnels que nous pouvons calquer sur elle. Lorsqu'on observe quelqu'un qui fait une bêtise, entre guillemets, parfois on entend dire « quel karma il se prépare celui-là ». Mais de telles phrases n'ont vraiment aucun sens dans la réalité des choses. Mais c'est une projection tout à fait humaine sur quelque chose qui n'a vraiment rien à voir avec cette éthique. Or, le karma existe sur tous les plans. Sur le plan physique, il existe de toute évidence dans l'enchaînement des lois de la physique et de la chimie, dans les mariages moléculaires qui sont stables et constants, dans les forces de la gravité qui sont stables et constantes, etc. Les mêmes lois que l'on retrouve dans un monde plus subtil, le monde de l'énergétique, avec les connaissances de l'électricité, du magnétisme, de l'électromagnétisme, des énergies dues aux formes, et de ce qu'on appelle aujourd'hui la physique quantique ou la médecine quantique. Là aussi, des lois complètement inexorables. Plus haut, plus subtil, plus subjectif, donc moins bien connu, les mêmes réalités, les mêmes lois s'imposent dans le plan de l'émotionnel, dans le plan du monde astral. Les désirs qui s'enchaînent avec leurs conséquences, les sentiments qui s'enchaînent avec leurs conséquences, les émotions qui s'enchaînent avec leurs conséquences. Et puis, un étage au-dessus, même chose sur le plan du mental, on connaît en psychologie parfaitement bien les lois de la psychologie, les lois de la pensée positive, les formes pensées, qui créent vraiment la psychologie. Ceci sur le monde de l'évidence, sur le monde, sur le plan de ce que nous connaissons le mieux, c'est-à-dire notre personnalité dans sa structure physique, énergétique, émotionnelle et mentale, c'est-à-dire psychique. Certains ont classé, et c'est intéressant les classements sur le plan pédagogique pour mieux comprendre, on classait les différents karmas pardonnez-moi, en 4 ou 5 classes. On parle notamment dans certaines écoles d'astrologie médicale et dans certaines écoles ésotériques d'alchimie de karma résiduel. Alors quand on évoque le karma résiduel, il s'agit d'un karma très très ancien, accumulé de vie en vie et qui se manifeste constamment puisqu'il est le moteur même, le moteur logique, si vous voulez, de tout ce qui nous arrive et de ce que l'on prend pour le destin. Ce karma résiduel, comme son nom l'indique, est le résidu donc des actions passées et il évoque là aussi une justice dans le sens d'une conséquence et d'une suite de l'événement dans cette existence. Pour l'instant, prenez-le comme une information, sans jugement de valeur, prenez-le comme quelque chose duquel nous discutons, Et puis, à mesure que cet exposé va passer, je pense que des éléments d'argument, des éléments de preuve vont ébranler certains doutes en vous, vont installer quelques petits grains de lumière, de connaissance. Et vous serez bien assez adulte à la fin de cette soirée pour juger par vous-même. À côté du karma résiduel, on parle du karma post-mortem. L'Eros Croix et Éric Marié, notamment dans ses études d'astrologie médicale, évoquent ce type de karma qui est l'accumulation anormale d'expériences qui n'ont pas été éliminées ou purifiées par l'impossibilité qu'a eu l'être, l'âme, de faire la rétrospective correcte de sa vie dans les 3 jours qui suivent son décès. Lorsque nous verrons tout à l'heure, un peu plus à fond, dans quelles conditions se passe le trépas et ce que doit aborder l'âme du défunt, les différents plans, on verra que dans ces 3 premiers jours, un temps essentiel dans l'évolution de l'âme est la rétrospective, la prise de conscience, ce film qui défile à l'envers à partir du moment de la mort jusqu'à la naissance. Or, on sait que certaines morts très violentes, certains accidents, certaines morts sur les champs de bataille aussi, accompagnées notamment d'explosions importantes, de bruits importants, perturbent cette sérénité de l'âme par une désagrégation trop violente du corps physique, et par une dissociation trop violente du physique et de l'éther et de la conscience, donc des plans subtils. De même, et ça nous concerne beaucoup plus, puisque les champs de bataille, heureusement, ne sont pas trop nombreux, ce karma post-mortem semble bien s'accumuler aussi à cause de l'entourage et de l'affect qui déborde là, dans des larmes, dans des cris, dans des pleurs, dans des éléments qui font que l'être est rattaché à ceux qui l'appellent, à ceux qui le pleurent, et c'est un des éléments essentiels sur lesquels nous travaillerons dans la conclusion de cette soirée, l'attitude la plus juste à avoir vis-à-vis de nos défunts est véritablement le silence, le respect et si possible la joie au sens le plus profond du terme. C'est souvent par ignorance que les humains, croyant bien faire, laissent aller les émotions, les pulsions ou les rituels. Et faute de cette connaissance ésotérique, initiatique, on est vraiment porteur là aussi d'une responsabilité importante. Troisième type de karma, qui est très peu connu lui aussi, c'est le karma prénatal. Il s'agit là de perturbations qui ont lieu entre le moment où l'esprit décide une nouvelle incarnation et la naissance. Si la structure psychologique de cet être était précédemment habituée à se mentir à elle-même, imaginez ce type de psychologie qui se bluffe en permanence, qui se fabrique des personnages, des masques, par peur, par fuite de la vérité, eh bien, au moment de l'incarnation, les structures énergétiques se déforment, parce que justement, l'être n'avait pas eu l'habitude de s'accepter tel qu'il était, de se voir en face, dans sa réalité, dans son schéma corporel même. Et cette déformation induit, hélas, souvent, des perturbations dans l'archétype, dans la structure énergétique du nouvel être, et des malformations de type congénital. C'est une des explications des malformations congénitales. On range aussi dans ce karma prénatal toutes les influences violentes ou perverses qu'a pu recevoir la mère pendant sa grossesse et qui forment ce qu'on peut appeler une galvanoplastie spirituelle, psychique plutôt, négative. C'est-à-dire de grands stress, de grandes peurs, des spectacles traumatisants, des informations violentes qui viennent perturber le psychisme de la mère pendant la grossesse et qui ont une incidence très déstructurante et très perturbatrice sur le moule, sur l'archétype énergétique de l'enfant qui est en train de se former dans l'utérus. C'est important. Quatrièmement, ce qu'on appelle le karma de contingence. Celui-là, il est beaucoup plus facile à comprendre, il est simplement lié aux actions négatives commises dans cette vie et qui risquent de se cristalliser donc comme karma résiduel dans la vie suivante. C'est un karma qui est tout à fait lié à notre attitude terrestre dans cette existence et que nous avons bien sûr le devoir le plus urgent de liquider, de régler dès cette vie, ne rien laisser comme dette avec qui que ce soit. Et sinon, c'est vraiment le risque de cristalliser ce karma résiduel. Bien, on parle ensuite de karma de groupe, lié à une famille, lié à une école spirituelle particulière, des groupes d'amis, des groupes professionnels. On parle aussi de groupes de nations, l'ensemble de l'énergie du pays, de la psyché, de l'inconscient collectif du pays, induisant une véritable influence collective. Et on parle enfin de karma planétaire, faisant intervenir l'ensemble de la planète comme une structure vivante, possédant tout comme nous, vous le savez, son corps physique, éthérique, astral, mental et spirituel. Les mêmes corps recouvrent cette terre, la font vivre, l'habitent, l'animent et préside à son évolution aussi. Alors bien sûr, une des objections que l'on fait lorsque l'on parle de karma, une des objections que l'on entend souvent, c'est « mais si c'était vrai, tous ceux qui ont causé des troubles énormes à la société, tous les grands pécheurs, tous les grands... les êtres qui sont porteurs de fautes importantes dans cette vie, eh bien, il arrive souvent qu'ils terminent cette vie sans avoir été punis, entre guillemets, sans qu'il y ait eu manifestation du choc en retour, sans qu'il y ait eu cet effet boomerang dont parle le karma. Alors, bien sûr, c'est un argument de dire, mais voyez-vous, un tel a commis tel ou tel crime, et il est mort riche, entouré et apparemment heureux. Ce type d'argument ne tient pas compte de ce que l'on nomme la loi de la lenteur. La loi de la lenteur des actions-réactions échappe complètement à la volonté humaine. C'est exactement comme les échos qui, dans les petites structures de montagne, nous reviennent très vite à l'oreille lorsqu'on chante ou lorsqu'on tape dans les mains, et qui, dans les grandes structures montagneuses, revient plus longtemps après. Ce phénomène de l'écho fait partie de la loi karmique et permet justement à l'être d'avoir le temps de réfléchir, d'avoir le temps de se reprendre, d'avoir le temps de se corriger, d'expérimenter, de se renforcer, voire de se racheter. Mais comme le temps, dans le plan spirituel, est une pure illusion que l'ego fabrique simplement pour son expérience terrestre, dès qu'on quitte ce plan de l'illusion terrestre, vous imaginez bien que la réalité karmique, elle est toujours là, et que si la chose n'a pas été rachetée dans cette incarnation, elle devra l'être dans une autre. Ce qui explique un nombre considérable d'épreuves importantes qui sont vécues avec un pseudo-hasard, avec un pseudo-pas de chance, et qui ne sont finalement que la retombée lente d'actions très très anciennes. Il existe aussi, pour bien comprendre ce mécanisme, la loi du choix de la direction. L'être a toujours en effet le choix de s'orienter. Il a le droit de donner son impulsion. Il a la possibilité, avec son libre arbitre, qui est un élément fondamental, bien sûr, dans la structure humaine,